RFJ Info.
Le journal avec vous, Vincent Jacquin.
Bonsoir. La confiserie verte a été déclarée en faillite il y a plus d'un mois, mais ses succursales de Delémont et Moutier sont toujours ouvertes sous un autre nom, avec un effectif réduit. Le syndicat Unia est monté aujourd'hui aux barricades. Il dénonce des malversations. Le patron, lui, balaie ses accusations. Les contaminations au Covid augmentent, mais la situation est aujourd'hui gérable, selon l'OFSP. Attention tout de même, puisque 4 des 5 critères fixés par le Conseil fédéral sont encore au rouge. Des arrivées à huis clos sans public et des champions au départ. La 74e édition du Tour de Romandie cycliste se dévoile. Elle comprendra aussi le 29 avril une étape musclée entre la Neuville et Saint-Imier. Le ciel sera encore variable ce soir avec des nuages et quelques précipitations par endroits. La nuit devrait être sèche avec toujours des gelées à l'aube. Le flou, des malversations, de l'enrichissement personnel, le syndicat Unia est monté au front aujourd'hui pour défendre les employés de l'ex-confiserie verte à Delémont, également présente à Moutier. Des employés roulés dans la farine, selon lui. L'établissement a été déclaré en faillite le 3 mars, mais reste aujourd'hui actif avec un effectif réduit et sous une nouvelle entité, la confiserie de la gare. Vos précisions, Raphaël Chalvera.
Selon Unia, la direction de l'ex-confiserie verte a obtenu du chômage partiel au début de la pandémie en mars 2020. Les employés auraient ainsi perçu 80% de leur salaire alors que certains d'entre eux travaillaient à 100%. Le syndicat exige donc qu'un versement de tous les montants dus soit réalisé sans délai. D'autre part, il juge l'attitude de l'Office des poursuites et faillites de Delémont très étonnante. Celle-ci a décidé que l'administration de la faillite n'entrait pas dans le contrat de travail, ce qui fait dire à quelques ex-employés sous couvert d'anonymat « La faillite a été prononcée et nous sommes toujours sous contrat. Nous ne percevons ni salaire ni chômage. C'est une catastrophe. »
Ses collaborateurs, justement, ils sont aujourd'hui en colère. Ils vous l'ont fait savoir, Raphaël.
Oui, et les mots sont durs. Nous étions payés à 80% par la RHT en travaillant à 100% et en réalisant de très belles caisses. Où est passé cet argent? Le patron nous a demandé des efforts pour sauver l'entreprise, d'être soudé et a mis les deniers dans sa poche. De son côté, Unia indique que l'employeur a refusé de dévoiler les enregistrements du temps de travail et qu'il a grugé les assurances. Plusieurs membres du personnel qui ont témoigné anonymement affirment vouloir aller jusqu'au bout, devant la justice s'il le faut. On ne veut pas qu'ils s'en sortent.
Notre rédaction a contacté le patron qui balaie les accusations d'un revers de main, Raphaël.
Depuis la faillite, nous avons réengagé 2/3 des employés qui ont tous été payés fin mars. Et l'objectif est de réengager plus tard tous les collaborateurs qui sont au chômage aujourd'hui. Nous ferons des nouveaux contrats, mais pour cela, nous devons attendre les décisions du Conseil fédéral sur la réouverture des établissements de la restauration. Nous ne pouvons pas le faire avant, explique Roger Veilla. Et au sujet de l'absence de revenus du personnel qui ne travaille plus aujourd'hui, l'employeur se défend également. Quand une faillite est prononcée, il n'y a pas de dédite, c'est à l'Office des poursuites de fournir les documents, pas à nous. Roger Veilla donne également son point de vue sur les RHT versés à ses employés. Du personnel était à la maison, faute de travail. D'autres personnes ont travaillé à 80% après l'instauration d'un tournus, pas à 100%. Certaines d'entre elles sont venues travailler bénévolement pour tenter de sauver l'entreprise.
La confiserie verte a perçu 150 000 francs de l'État jurassien au titre de soutien pour cas de rigueur, un montant destiné à éviter la faillite. Et Raphaël, celle-ci a tout de même été prononcée le 3 mars.
Et là encore, Roger Veilla se défend. Oui, nous avons reçu 150 000 francs, mais après un an. Nous avons 8 mois de retard dans les factures. Avec ce montant, nous avons payé très rapidement nos fournisseurs et versé les salaires des employés à fin février. Que voulez-vous que l'on fasse après, alors qu'il nous manque 100 000 francs chaque mois, nous a confié le patron. La faillite de Verte a donc été prononcée le 3 mars. S'en est suivie la création de la confiserie de la gare, toujours dirigée par Roger Veilla. Si l'activité s'est poursuivie entre-temps, c'est pour écouler les denrées périssables. Les rentrées financières entre le 3 et le 8 mars se trouvent dans la caisse de l'Office des poursuites, pas dans la mienne. On va désormais essayer d'avoir une affaire plus petite, mais la réouverture n'est pas définitive, conclut le patron.
Nous avons enfin contacté le service de l'économie et de l'emploi du canton du Jura pour connaître son avis. Pas de commentaire pour l'heure, il indique que le dossier est en traitement sous plusieurs aspects. Manger local et de saison, ce bon conseil doit aussi être suivi d'effets politiques. C'est en tout cas ce que demande François Monin, qui a récemment déposé une motion au Parlement jurassien sous le titre « Limiter l'utilisation de produits étrangers et non saisonniers ». Le député PDC note que des milliers de repas sont distribués chaque semaine par des établissements subventionnés par l'État. Et selon François Monin, le gouvernement doit montrer l'exemple et exiger qu'une part des produits utilisés par ces derniers proviennent de l'agriculture jurassienne. Mais il est clair que la part minimale ne sera pas la même pour tous les produits. Écoutez François Monin.
C'est vrai que le Jura n'est pas un grand producteur de légumes ou de production arboricole. Cependant, on sait que pour les céréales ou pour les produits laitiers, le Jura pourrait être totalement autosuffisant et il serait normal que dans la restauration collective où l'État subventionne et participe finalement à l'acquisition des denrées alimentaires, il montre l'exemple et il achète des produits de la région.
Et cette motion a un deuxième objectif, elle veut aussi jouer un rôle éducatif sans être pour autant contraignante pour le gouvernement. On retrouve François Monin.
On ne demande pas aujourd'hui au restaurant de servir pendant 6 mois que du chou. Cependant, je pense qu'il paraît normal aujourd'hui, de nos jours, en 2021, d'éduquer nos jeunes enfants, d'éduquer également les personnes qui mangent tous les jours dans nos établissements scolaires à la saisonnalité, finalement, parce que ça nous permet de manger mieux, de manger local, de participer à l'économie circulaire du canton, ainsi qu'à favoriser les produits qui sont ici, qui ont moins de transport, qui sont plus durables, en fait, parce qu'il y a moins d'émissions de CO2 qui ont été émises suite à leur transport. Donc, je pense que ça paraît normal et ça paraît du bon sens aujourd'hui.
Voilà, François Monin qui précise que de nombreuses études ont été réalisées, notamment à l'EPFL, et que le prix de revient d'une telle action ne représenterait pas des sommes supplémentaires. Le festival du film vert aurait dû se terminer ces jours, mais la 16e édition a été repoussée à l'automne. Pour patienter, les organisateurs vous proposent la diffusion d'un film à distance. Il sera possible de voir ou revoir L'homme et la forêt du Suisse Claude Chaoli depuis votre salon. La projection sera suivie d'une discussion à distance avec un garde forestier. Ce sera jeudi prochain à 20h avec la possibilité de voir ce film en replay. L'événement est gratuit mais sur inscription. Gérable, en ce 13 février 2021, avec 2241 nouvelles infections, la situation épidémiologique est qualifiée de gérable par l'Office fédéral de la santé publique. C'est un signal important, puisque le Conseil fédéral pourrait assouplir demain les restrictions liées à la pandémie. Mais Virginie Masseret de l'OFSP souffle aussi le froid en précisant que 4 des 5 critères fixés par le Conseil fédéral ne sont pas atteints. Tout pronostic sur les décisions du gouvernement demain est hasardeux. Écoutez.
Le nombre de nouvelles infections continue à augmenter, mais lentement, de manière contenue, avec des conséquences qui restent gérables. Cette propagation, heureusement, n'est pas encore explosive et on espère qu'elle ne va pas le devenir. On voit aussi que le nombre de nouvelles hospitalisations déclarées par jour tend à augmenter lentement. Il y a actuellement 211 personnes hospitalisées aux soins intensifs avec un Covid, mais ça reste tout à fait gérable. On est à peu près à 22% des capacités des soins intensifs en Suisse actuellement. En résumé, donc, la situation épidémiologique reste fragile. Une grande vigilance reste nécessaire, mais on a des vraiment bonnes perspectives.
Et la vaccination s'accélère. Plus de 200 000 doses ont été administrées la semaine passée. 70% des plus de 75 ans ont reçu au moins une dose, qui représente la moitié des personnes vulnérables en Suisse. Un demi-million de fioles supplémentaires arrivent cette semaine. Cette autre information fournie ce mardi, l'acceptation de la vaccination progresse. Lors d'un sondage réalisé à la mi-mars, 72% des personnes interrogées répondent être disposées à se faire vacciner, contre 23% qui ne veulent pas et 5% sans opinion. On revient dans le Jura où la ministre des Finances, Rosalie Beressis, a été testée positive au Covid. Elle ne présente pour l'instant que des symptômes légers et poursuit son engagement en télétravail pendant l'isolement de 10 jours. Rosalie Beressis a procédé à un test rapide après l'apparition de maux de gorge. Comme le gouvernement jurassien siège en visioconférence, son fonctionnement n'est pas impacté.
Belle soirée à l'écoute des RFJ, il est 18h10.
Sport,
Les détails du prochain tour de Romandie cycliste sont connus. Ils ont été dévoilés ce matin. Et cette 74e édition se déroulera entre le 27 avril et le 2 mai, sans spectateurs aux arrivées, mais avec des champions au départ, comme Chris Froome, Geraint Thomas, Peter Sagan ou encore le jeune prodige helvétique Mark Hirschi. Les organisateurs ont dû adapter leur événement à un protocole strict par la mise en place de bulles sanitaires pour les coureurs, mais aussi leur encadrement, les membres de l'organisation, ce qui complique d'autant la logistique. Mais Richard Chassot peut pousser un ouf de soulagement, sa course peut avoir lieu. L'annulation de l'an dernier l'avait précipité dans les chiffres rouges.
Ouais, alors les pertes ont été assez lourdes sur 2020, mais par chance, elles ont été en fait supportées par la Loterie Romande et le Fonds des Sports qui nous ont attribué, qui nous ont laissé en fait la subvention qui est mise en place chaque année pour le Tour de Romandie. Il y a juste une déduction en fait par rapport à des coûts économisés, mais ils nous ont laissé la subvention et par une somme aussi d'argent qui a été versée par l'Office fédéral du sport dans le cadre du soutien au sport. Donc on a réussi en fait à être à zéro. Tout ce qu'on avait dépensé et pas pu organiser en 2020, on a pu repartir à zéro. Et là, c'est clair qu'on a pris d'autres risques parce que si tout d'un coup, à 10 jours, on ne pouvait pas le faire, là, les engagements financiers sont encore bien au-delà du million. Donc là, c'est pour ça qu'on doit absolument le faire maintenant. C'est une prise de décision qui s'est faite avec les fondations, les sponsors et tout. Et c'est clair qu'il y a de la perte de visibilité pour les sponsors, et de la perte de proximité avec le public, mais tout le monde a joué le jeu pour qu'on puisse quand même faire le Tour de Romandie cette année, qu'un Tour de Romandie spécial, pour pas qu'il disparaisse. Parce qu'à ce niveau-là de la compétition, pas exister pendant 2-3 ans, ce serait extrêmement dangereux. Voilà. Mais notre première mission est de gagner une course de vélo. C'est notre challenge, c'est à quoi on s'est engagé. D'avoir des villages de sponsors, d'avoir des étrangers, tout ça, ça va avec. Mais la première mission, c'est d'organiser une course de vélo.
Et ce 74e tour de Romandie débutera par un prologue à Oron, puis il s'arrêtera dans l'Arc Jurassien à l'occasion de la deuxième étape. Ce sera entre la Neuville et Saint-Imier, jeudi 29 avril. Une étape truffée de difficultés avec des ascensions successives sur le plateau de Diesse, Chaumont, les Bugnonnais, Montcreusin, les Pontins. Et enfin, la vue des Alpes à 17 km de l'arrivée. Menu musclé, donc, comme on convient à Bernard Bertschi, le concepteur du parcours.
Déjà, quand on va dans le Jura, on sait que c'est déjà dur. Le terrain lui-même, il est dur déjà. Donc, on ne peut pas faire des courses pour un sprinter dans le Jura, quoi, ça c'est clair. Le souhait aussi de Saint-Imier, c'était qu'on passe deux fois sur la ligne avant l'arrivée. Donc, on a composé avec ça. Et puis, voilà, ce sera une étape où je pense qu'il y a un sprint pour 20 ou 30 sur la ligne en même temps, ce sera pas mal, quoi.
Mais le but, ce n'est pas que cette étape, finalement, soit trop sélective, parce que le Tour de Romandie, en général, ne se joue pas forcément sur ce genre d'étape.
Non, je ne pense pas qu'il sera joué à Saint-Imier. Par contre, il y en a qui vont peut-être perdre le Tour de Romandie à Saint-Imier, déjà, parce qu'il faudra être là. Puis la météo, certainement, on souhaite qu'elle soit bonne, mais si on n'a pas une bonne météo, ça va jouer un sacré rôle pour la victoire finale, quoi.
Un sujet de Marcel Neuenschwander. Et en plus de Saint-Imier, les autres têtes d'étape seront Martigny, Estavayer-le-Lac, Thion 2000 et Fribourg, où se déroulera le contre-la-montre final. Yann Sommer écope d'une suspension. Le portier de l'équipe de Suisse de football a été exclu pour 2 matchs suite à son expulsion avec le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga face à Hertha Berlin samedi. Il avait commis une faute de dernier recours en dehors de la surface. Voilà qui termine cette édition. Je vous souhaite une très belle soirée.
Tout de suite, un coup d'œil sur le ciel de ce mardi soir. Un ciel qui est variable, mais retour à un temps sec pour la nuit, sous un ciel à nouveau bien dégagé. Il fait froid, il y a de la bise bien sûr. Demain, le temps est bien ensoleillé le matin, juste après le gel à l'aube, comme vous devez le savoir. Là, on peut encore avoir quelques soucis cette semaine. Développement nuageux parfois imposant l'après-midi. Mais le temps reste sec, les températures elles sont donc fraîches, le matin moins 3, moins 1 degré au meilleur de la journée, jusqu'à 8 à 10 degrés, jusqu'à 7 degrés à 1000 mètres d'altitude, une petite bise à basse altitude et dans les vallons sensibles soutenus sur les crêtes. Jeudi, le temps sera à nouveau bien ensoleillé le matin avec quelques bancs de nuages, développement nuageux parfois imposant l'après-midi.